avec Pascal Séry.
De retour à l'émission à 10h20. Je suis vraiment contente d'aller lui reparler. Vous le connaissez peut-être. Je l'invite une fois de temps en temps dans de genre de situations comme celle qu'on a vécue hier. Bon, d'abord et avant tout, éclipse solaire, c'est un événement qui est positif. Mais on a vu des petits coyotes puants. Vous savez, je les appelle comme ça, les gens qui vont passer sur des accotements, vont pas faire leur lumière rouge, vont pas faire leur arrêt stop non plus. Ils vont finalement pas soucier de grand-chose parce qu'ils sont bien excités de manière positive. Positive ou négative face à l'état de, comment dire, d'urgence, je vais le dire comme ça, mais de l'état d'urgence personnel face à un événement. Puis hier, c'était l'éclipse solaire. Donc, tout le monde voulait passer rapidement, pas rester dans le trafic pendant 2-3 heures aux abords des ponts, voulait se rendre à Saint-Georges pour vivre cette merveilleuse journée historique. Il faut le dire quand même, là, c'est un événement spectaculaire qu'on a vécu hier. Mais c'est là où tu vois qu'il y a certaines personnes qui détonnent. Est-ce que je suis capable de 100% les juger? Non. Je dis pas que j'encourage des comportements du genre je passe sur l'accotement puis je me soucie plus de ce qu'il y a autour de moi. Mais dans tout ce qui est émotivité, j'ai assez étudié certaines portions de psychologie pour savoir que c'est pas nécessairement le rationnel qui a pris le dessus. Donc, c'est pour ça que je suis pas dans le jugement complet de la personne. Mais je peux dire qu'une petite gang de coyotes puants, par exemple. Vous savez que ça, soit c'est un qualificatif attachant, gentil, mais quand même qui va droit au but. Et j'ai pensé à mon ami Mathieu Montaroux hier. Je me suis dit, mon Dieu, il aurait été découragé. Et probablement que pour lui, ça enrichit encore plus sa façon de voir les choses si jamais on avait à vivre une situation d'urgence négative. Je m'explique. Il arrive quoi que ce soit avec un des ponts à Québec, il faut évacuer. Il y a, des inondations monstres. Il faut partir de la rive sud à la rive nord ou le contraire. Il arrive, une situation de guerre, peu importe. On peut aller loin, Mais supposons qu'on a à évacuer Québec et que ça se passe comme hier. ça veut dire des gens qui n'écoutent pas les consignes des policiers, des gens qui ne laissent pas passer des ambulances, des gens qui finalement se priorisent. Puis voilà pourquoi j'avais envie qu'on ait une petite discussion avec Mathieu, parce qu'il est très rationnel, équilibré, terre à terre dans tout ça. C'est un ancien de l'armée française et c'est surtout maintenant le fondateur de Québec Preppers pour des citoyens préparés à un peu de tout. C'est un conférencier et un auteur, il a déjà publié plusieurs livres. Et Mathieu est en direct de Zoom avec nous dans leur CV. Salut Mathieu!
Bonjour tout le monde, bonjour à toi.
Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais hier, j'ai vraiment eu une pensée pour toi. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'il est allé voir ce qui se passait un petit peu partout puis qu'il a vu les bouchons monstres puis qu'il s'est dit, c'est un événement positif, mais ça donne peut-être une leçon pour ce dont on a à travailler si jamais il arrivait quelque chose de, d'urgence collective.
Ben oui, effectivement, on parle toujours d'éducation, que ce soit par mon site web, effectivement, que ce soit par les livres ou les différentes allocutions que je peux donner dans les journaux, la télé ou à la radio. On veut éduquer au maximum la population à faire face à différents aléas. Encore une fois, on parle là d'urgence ou non-urgence ou, comme tu dis tantôt, de l'urgence personnelle pour son bien-être et son confort personnel, mais la base reste la même. Être prêt à faire face en cas de. Et effectivement, s'il était arrivé un désastre à ce moment-là, on peut largement imaginer que les dommages collatéraux, finalement, auraient été importants.
Parce que
dans la préparation, on dit toujours que là, tu prenais l'exemple pour les ponts. Bon, c'est sûr qu'il faut toujours avoir un plan A, c'est sûr, mais un plan B et un plan C. Donc, ceux qui se basent sur une seule alternative, déjà, ils ont un train de retard. On pourrait dire ça comme ça.
Hier, on discutait, puis en émission, on se disait, si vous voulez être à Saint-Georges, j'attends pour l'éclipse. Là, en ce moment, c'est congestionné sur les ponts depuis... c'était à partir de 11 h hier matin, finalement. Certaines personnes disent, passons par Trois-Rivières, le pont La Violette, faisons le détour, rendons-nous. Il n'y a pas 100 000 options, puis c'est pour ça aussi que le troisième lien est bien discuté ici à Québec. Il n'y a pas 100 000 options pour passer de la rive sud à la rive nord ou le contraire. Dans une situation catastrophique, Mathieu, toi, tu n'es jamais dans le jugement de l'humain, tu es dans la compréhension psychologique et psychiatrique quasiment de tout ça. mais ça peut devenir facilement émotif. C'est quoi notre devoir individuel là-dedans? Parce que c'est sûr que je comprendrais, admettons, dans une situation d'urgence, une famille qui veut sauver ses enfants ou un papa, une maman qui dit « ben non, nous autres, on passe, puis rendu là, c'est chacun pour soi ». C'est vrai que ça prend vite le dessus, ça, dans ce genre de situation-là?
En fait, là, comment on l'explique par rapport à ce qui s'est passé, on savait qu'à telle heure, il allait y avoir tel événement. Bon, là, l'éclipse, OK. Mais dans la préparation citoyenne, on parle toujours du Golden Hour. Donc, le Golden Hour, c'est quoi? C'est dès qu'on entend une suspicion de catastrophe, là, pour parler de catastrophe, ou d'aléa, ou autre chose, un événement, on veut pouvoir, nous autres, citoyens prévoyants, pouvoir évacuer dans la première heure. Parce qu'on estime finalement que dans cette première heure-là, c'est là qu'il y aura le moins de personnes, justement, sur le réseau routier, sur le maritime, peu importe, sur les voies d'évacuation, finalement. Au-delà de cette première heure, finalement, les congestions, les bouchons, les problèmes vont commencer à arriver puis à augmenter.
Le stress, la panique aussi, parce que là, on voit que finalement, les gens ont pris les décisions en même temps que nous, un petit peu plus tard ou au moment où ça se passe. Je te décris toujours comme étant, t'es pas le survivaliste avec la porte de sous-marin dans un bunker caché en forêt, toujours habillé en camouflage, pas du tout. On te croise en rue puis on se doute pas qu'il était un citoyen préparé, mais en même temps, avec le temps, finalement, on s'est rendu compte que c'est eux qui se sont préparés qui vont aller mieux dans la société parce qu'ils vont pouvoir être des leaders. Et tu m'as souvent expliqué que dans ce genre de situation, peu importe quelle situation, comme hier, c'était bon, la police qui faisait un certain courant, qui essayait de gérer la situation, mais il faut un leader. Hein. Fait que dans le foyer, soit la famille, il faut s'assurer que le rôle de leadership est bien établi. Si jamais on a à gérer une situation comme une digue qui brise, on a 15 minutes pour évacuer la maison ou encore des feux de forêt ou peu importe. Il faut avoir prédéfini les rôles familiaux.
Ben oui, en fait, on a plusieurs échelles. Hein. C'est sûr que moi, au niveau, puisque bien depuis plusieurs années maintenant, je travaille tant dans les catastrophes au niveau professionnel que personnel en tant que consultant en mesure d'urgence. Mais
Avec le gouvernement, entre autres, là.
oui, tout à fait. Moi, à titre personnel, bon, je le fais en tant que consultant au niveau de la famille, du réseau, du cocon familial. Donc, effectivement, comme tu le dis, que ce soit le couple ou l'un ou l'autre qui soit leader, peu importe, tu l'as très bien dit, il faut que ça soit établi pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Mais là, si on prend l'exemple d'hier, bon, ben, il faut que ce leadership-là soit, comment dire, établi sur une échelle plus importante. Donc, pas forcément une personne, mais un groupe de personnes qui vont prendre le lead. Donc là, tu parlais finalement des services de police. Donc, c'est eux qui ont le lead
La
sur l'événement.
collectivité, oui.
Exactement.
Tu as souvent parlé du fait que, bon, faut avoir travaillé en amont d'une manière pas. Pas sauter, je vais le dire comme ça, mais sur des plans d'évacuation ou des simplement un scénario du genre, hey, moi, je peux pas être chez moi dans ma maison pour une période X. Je sais où je m'en vais, je sais par où je passe, ou encore j'ai deux, trois options, que ce soit les grands-parents, que ce soit les tantes, les oncles, mais que ce soit préétabli. Comme ça, si ça arrive, hey, te rappelles-tu, on a discuté il y a 6 ans que si je devais quitter ma maison, tu allais m'héberger avec ma famille. Ça, pour toi, c'est super important.
Ben oui, en fait, la base, c'est ça. Puis c'est vraiment cool que tu parles de ça parce qu'on voit finalement qu'au fur et à mesure des mois et des années, tu acquiers finalement cette connaissance-là, puis cette compétence-là. À la base, on va faire une analyse de risque. Donc, on va analyser les catastrophes les plus probables dans ma région. Donc, tu parlais tantôt qu'effectivement, je ne suis pas habillé en camouflage avec un sous-marin et tout. Non, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2017, j'aspire à éduquer finalement la population pour que chacun dans la population se sente concerné par ce mouvement-là, parce qu'il est accessible à tout le monde, peu importe le rang social, peu importe le niveau social, etc., etc.
Parce que vous avez été longtemps stigmatisé, là. Vous avez été vu comme des gens un peu bon, en problématique de paranoïa, puis de peur qu'il arrive quoi que ce
Exact.
soit, puis avec des sous-sols remplis de sacs de riz, puis.
Mais ça l'est encore dans certaines régions ou certains pays, là, que ce soit en Europe ou par moments aussi aux États-Unis. Mais encore une fois, avec votre aide, l'aide des médias, les journalistes et autres, on travaille encore une fois depuis 2017 sur une belle pente, une belle collaboration. Puis tout ça pour dire que en revenant à l'analyse de risque, on analyse les dommages, pas les dommages, les catastrophes les plus probables dans la région. Et suite à ça, on va faire un plan d'évacuation, un plan de préparation, que ce soit au niveau connaissance, que ce soit au niveau compétence, que ce soit au niveau, encore une fois, de l'équipement. Mais l'équipement, finalement, tiens, c'est souvent ça qui revient en amont. Mais c'est pas ça le plus important, c'est vraiment la connaissance et les compétences.
Ça fait souvent rire mon entourage, puis j'en avais parlé en pandémie et tout. T'sais, moi, je suis un écureuil, là. T'sais, mon garde-manger, il est plein de façon aussi simple que si le dimanche je veux faire une sauce à spaghetti, j'ai ce qu'il faut dans mes congélateurs, dans mes armoires. Puis j'en parlais à la radio, puis ça faisait rigoler, mais je pense qu'il y a quand même un minimum de préparation aussi à l'interne, à la maison, qu'on doit avoir, parce que même hier, il y a des gens qui faisaient des blagues, mais sur les pages Spotted Costco, c'est mes pages favorites, moi, c'est Spotted quelque chose-là. Il y a des gens qui disaient, voyons, ça arrive, puis ça vient chercher du papier de toilette et tout, faisant référence à ce qu'on a connu en pandémie. Quand le stress et l'émotif prend le dessus sur notre cognitif, là, ça peut nous faire faire plusieurs choses. Est-ce que le fait d'être préparé, justement, d'une manière ou d'une autre, puis donne-nous comme un top 3 de ce qu'on doit préparer puis s'assurer qu'au quotidien, ça soit dans notre vie, va justement faire en sorte qu'on va être plus lucide dans ce genre de situation?
Ben, en fait, oui. C'est sûr que pour ton top 3, ça va être la nourriture, l'eau et puis le chauffage. Par exemple, le chauffage, on met ça avec la lumière aussi, là. Puis tous ces problèmes-là vont être décuplés hein, si on a des enfants. Hein. Moi, j'ai des enfants, j'ai Léna, elle a 2 ans passés, Logan a 7 ans. Ces enfants-là, ils ont besoin d'un confort, ils ont besoin de se sentir en sécurité. S'ils voient que les parents sont démunis, dépassés, c'est sûr qu'eux autres, ils vont le ressentir, puis ça va être fois pire.
Ça va être désorganisé encore plus, mais oui.
Exact.
Donc, tu parles de nourriture, tu parles de, bon, lumière, donc peut-être la lampe de poche et tout, là, qu'on peut charger, oui, avec les batteries, mais aussi peut-être avec l'énergie solaire. Puis tu parles aussi, tu m'as dit de l'eau, fait que peut-être avoir un genre de contenant d'eau. Mais ça calme nos ardeurs personnelles dans notre petit foyer, mais est-ce que tu penses qu'on doit impliquer aussi des amis dans tout ça ou d'autres membres de la famille?
Ben oui, là aussi, tu sais, on a encore beaucoup de chemin à faire, malheureusement. Là aussi, je travaille beaucoup là-dessus. Mais on a beaucoup de loups solitaires dans notre mouvement qui pensent qu'à la moindre catastrophe, ils vont pouvoir évacuer dans la forêt puis vivre plusieurs mois. Alors qu'on sait très bien qu'au Québec, les mois d'hiver sont très, très, très significatifs de par la température et que... Avec ça, on peut pas avoir, même moi, hein, on peut pas avoir toutes les connaissances et les compétences et l'équipement nécessaire à moi tout seul. Donc, j'ai tout intérêt, finalement, à créer une communauté à la fois proche, que ce soit mes voisins au-dessous, ou même de la rue, ou même du quartier de Montréal dans lequel j'habite, par exemple pour des jardins communautaires. Donc, pour avoir la place et les ressources nécessaires en cas de catastrophe.
Est-ce que l'humain te fait peur, toi, Mathieu, quand justement l'émotivité prend le dessus? C'est-tu ta plus grande crainte dans ce genre de situation-là? Comme on a vu hier, tu as des gens qui passaient sur les terre-pleins, qui ne laissaient pas aller les ambulances, puis c'était positif, là, c'était l'éclipse solaire. On pouvait prendre un petit pas de recul, là.
Oui, parce que le commun des mortels, finalement, les 98-99% de monde qui sont non préparés vont finalement laisser parler leurs émotions. Puis on sait très bien que si c'est les émotions qui parlent, c'est pas l'entraînement, c'est pas la préparation. Si on prend de l'autre côté du spectre, toutes les forces armées, justement, les paramédics, les policiers, eux autres s'entraînent à tous les jours pour justement que l'émotion ne prenne pas le dessus en cas de catastrophe. Donc ces gens-là sont rationnels, ils vont savoir quoi faire. Mais il va falloir qu'ils fassent face finalement à tous ces gens qui seront pas préparés puis qui vont faire n'importe quoi.
Je reviens toujours quand on se parle, Mathieu, au fameux petit sac à mettre dans l'entrée de la maison, un petit sac qu'on adapte selon les saisons, avec peut-être les photocopies des prescriptions, des cartes d'assurance maladie ou encore des médicaments en double qu'on peut avoir, qu'on met là-dedans. Faisant référence, on s'était parlé aux inondations quand les gens avaient eu un 15 minutes pour évacuer, ils cherchaient, couraient partout dans la maison. Qu'est-ce qui va me rester à la fin? Qu'est-ce que je vais avoir besoin? T'sais, que ce soit des kits de rechange pour toute la famille, au moins avoir un petit quelque chose de près, là, toujours à la porte.
Ben oui, puis tu sais, tu le dis avec les inondations, mais l'été dernier, on l'a vu aussi avec les feux de forêt. C'est sûr qu'on a beaucoup de monde, que ce soit tes voisins, tes parents ou autres, qui vont dire oui, mais ça ne t'empêchera pas de mourir si, effectivement, ça ne nous empêchera pas de mourir s'il y a une grosse catastrophe. Mais ça va améliorer nos chances de survie et de confort. Puis c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est juste améliorer nos chances de survie et de confort. Tu sais, si je prends l'exemple type de... ton véhicule, tu roules sur l'autoroute, puis finalement, on a 2 personnes. On a une personne qui met sa ceinture, puis l'autre qui ne met pas sa ceinture de sécurité. Est-ce que le fait de mettre ta ceinture de sécurité va t'empêcher de mourir? Non, elle ne t'empêchera pas de mourir. Par contre, elle va améliorer tes chances de survie. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut le, faut le voir.
Oui, puis tu sais, on peut avoir les images de comme l'émission de Last of Us. Il y a vraiment un épisode qui est fascinant pour ceux qui ont vu la série. En passant, je vous la recommande. C'est vraiment très, très bon. Puis la deuxième saison s'en vient. Mais il y a un des épisodes où c'est un homme qui s'est préparé à vivre seul dans toutes les circonstances où il pourrait se faire attaquer. Il a monté des gardes autour de lui. Il est autosuffisant sur bien des choses. Il est en forme, mais il souffre de solitude aussi. Il y a ce point-là quand on dit qu'on travaille en collectif. Puis d'abord et avant tout, c'est pas une course contre la montre à savoir quelle sera la dernière personne sur Terre, là, parce qu'on pense pas qu'il y aura des gens qui vont mourir en masse là, dans les prochaines années. C'est pas là où on est. C'est juste en fait d'avoir un devoir collectif sur notre propre sécurité, puis d'être capable aussi de pas se fier simplement sur les autorités pour notre besoin personnel. Ce serait peut-être une erreur de ce côté-là, Mathieu?
Tout à fait, oui, parce que s'il y a une grosse pandémie, s'il y a une grosse catastrophe, chaque personne est humain, pareillement pour les infirmiers, pareillement pour les policiers. Et à un moment donné, ces personnes-là, les forces de l'ordre ou les agents, les infirmiers, les médecins, ils vont se dire ben, « peut-être que moi aussi, je vais rentrer chez moi pour prendre soin de ma famille ». À ce moment-là, on ne pourra plus compter justement sur les forces de l'ordre et le service de santé.
Mais ne soyons pas dans les scénarios apocalyptiques. Cependant, ça reste intéressant d'en jaser, puis ça reste important d'aller farfouiller ton site web Québec Preppers, Mathieu Montaroux. Toujours un bonheur de te parler. Je sais que tu es en finalité d'un prochain ouvrage qui devrait sortir dans les 2, 3, 4 prochains mois. Ton prochain livre est à quel sujet cette fois-ci?
Ben justement, sur les pires scénarios. Donc, ça vient compléter les 3 premiers ouvrages. Mais c'est ça, on aborde encore plus en profondeur les pires scénarios, puis avec un peu plus d'équipement, avec un peu plus d'informations sur le soi, sur les émotions, et plus que sur les équipements qu'on a vus dans les précédents ouvrages.
Si ça vous intéresse, contactez Mathieu par ses différentes plateformes. Ce serait le fun aussi, un genre de, je sais pas moi, peut-être centre de foire rempli pour justement préparer les gens ou encore apprendre certaines techniques. Je lance ça dans l'univers, Mathieu, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, qui entendent tout ça, puis qui disent « Hey, moi, j'ai une compagnie, je trouvais ça le fun, je m'appelle La Tulipe, puis je veux m'associer avec toi pour justement former des gens, peu importe. » Mathieu Montaroux, on se reparle, puis j'espère que ce ne sera pas dans une situation un peu triste ou tragique, mais plutôt Merci. Dans la préparation de tout ça. Salut Mathieu.
Merci beaucoup.
À la prochaine. J'adore parler à cet homme-là qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis comme je vous dis, c'est quelqu'un qui prend la peine de nous renseigner comme il se doit, pas dans un instant de panique ou dans des scénarios épouvantables. On n'est pas dans une folie collective, on est vraiment dans une préparation collective. Je vous le dis, allez farfouiller ces pages, ça vaut la peine. Puis pour ceux qui deviennent accros à tout ça, ben parfait, on se parlera entre nous, entre personnes qui ont des passe-temps un petit peu particuliers. Ouvre tes yeux, Simon, à Boulevard 101, les 3 accords dans vos oreilles. Merci d'être dans leur CV. Au retour, on parle à Jennifer Obensawin qui réfléchit à peut-être devenir la tête de Wendake. Elle est toute jeune, elle est dynamique, mais surtout, elle fait partie de la communauté puis elle va nous donner un accès privilégié dans notre conversation. Au retour, après les 3 accords.